La maison de part dans l'épître aux Éphésiens 3, verset 4. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus, par l'Évangile. Verset 9, mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. Au chapitre 4, verset 11. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Dans la première épître à Timothée, chapitre 3. D'abord le premier verset. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Au verset 8, de même il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole. Verset 9, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. Je lui ferai lire en arrière verset 6 pour le surveillant. Qu'il ne soit pas nouvellement converti de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage à ceux de dehors pour qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Deuxième épître. Chapitre 2. Verset 4. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il ne l'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'ils se retirent de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre, mais fuit les convoitises de la jeunesse, et poursuit la justice, justice pratique, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. cœur pur est toujours dans l'Écriture un cœur qui n'a que Dieu pour objet. Mais évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations. Et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous, propre à enseigner, ayant du support, enseignant avec douceur les opposants, attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera pas la repentance pour reconnaître la vérité, et s'ils ne se révéleront pas du piège du diable, par qui ils ont été pris pour faire sa volonté. Or, sache ceci que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien. Traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens. Au chapitre 4, et encore le 3, verset 14. Mets-toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Verset 3, il y aura un temps du chapitre 4 où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu mon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est-à-dire la doctrine dont la foi s'empare. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Verset 17, mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Verset 18, le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. On a fait remarquer maintes fois, et ici certainement, comme ailleurs, que le Nouveau Testament, les Épîtres en particulier, sans parler des Évangiles, donc la plus grande partie du Nouveau Testament a beaucoup plus à faire à des croyants qu'aux pécheurs. Et cette simple remarque nous conduit à suivre le Seigneur lui-même quant à ce fait et à entrer dans sa pensée qui est celle de son cœur et qui est en rapport avec l'activité qu'il déploie pendant la période chrétienne depuis bientôt 20 siècles, laquelle activité ne consiste pas seulement à amener des âmes à la possession de la vie éternelle, mais à la poursuite et à la réalisation d'un plan beaucoup plus vaste et élevé, qui est celui de l'édification de l'Église, qui, dans l'ordre des conseils divins, tient une place unique. Et si nous aimons le Seigneur, il est évident que nous aurons à cœur de connaître sa pensée et, la connaissant, d'orienter, de lui demander d'orienter nos cœurs et nos activités dans le courant même de sa pensée. L'obéissance et l'amour vont ensemble. La propre volonté et l'amour ne vont jamais ensemble. Un enfant se montre qu'il aime ses parents quand il est obéissant. Quand il n'est pas obéissant, en cela il n'aime pas. Retenons ceci, l'obéissance et l'amour ne s'identifient pas, je ne dirai pas cela, parce que l'amour est lié à la nature divine, elle est avec la lumière, ce qui constitue l'excellence divine. Dieu est amour et lumière et rien d'autre. Et l'enfant de Dieu participe de cette nature. Il n'est pas amour, mais il connaît l'amour et il est lumière. Il n'est pas amour parce que l'amour est souverain et suprême, ce que les chrétiens n'est pas. Nous, un chrétien, quelque excellent qu'il soit, reste une créature, et pour toujours. La pensée de l'Église, n'est-ce pas, est la pensée que le Seigneur a toujours devant lui, même lorsque des conversions se produisent chaque jour dans divers points du globe, et en apparence sans liaison apparente. Il y a toujours une liaison, il y a toujours une pensée, une intention directrice, c'est celle du Seigneur. Et là où même des serviteurs que le Seigneur bénit dans leur travail d'évangélisation, il n'y a qu'un dénombrement de convertis. Le Seigneur, qui a produit seul les dites conversions, voit plus loin et il place, en appelant une âme à sa connaissance et en lui donnant la vie, il met cette âme à sa place dans le corps que le Saint-Esprit ne cesse d'édifier depuis qu'il est descendu pour cela. Il est descendu sur la terre pour cela. Et levons-nous autant que possible en toutes choses, même des choses ordinaires, à plus forte raison pour les choses élevées et importantes, élevons-nous par la foi à la hauteur de la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur. C'est toujours la seule et vraie manière de voir une question quelle qu'elle soit. Cette Église, donc, n'est-ce pas, et cette Église, elle a ceci de particulier, elle a bien des traits qui la distinguent de tout ce qui a précédé et de tout ce qui suivra. Elle est destinée à être l'épouse de Christ, l'épouse de Christ. Elle est le complément de la tête. Et la tête, avec son complément, le corps, n'est-ce pas, constitue ce nouvel homme, l'homme mystique des conseils de Dieu, dont l'union d'Adam et d'Ève n'était qu'une image. Dieu n'avait pas comme fin dans ses pensées Adam et Ève, quelque profond que soit ce mystère comme l'apôtre le dit, mais il avait devant lui de toute éternité l'union de Christ et de l'Église, et il fallait former cette Église, elle est en train de se faire. Et nous pouvons penser que sa formation est plutôt en train de se terminer. Ceci situe toujours, déjà, nos pensées à un haut niveau comme il se doit. Et nous conduit, n'est-ce pas, dans nos activités, dans nos services, dans nos ministères, que ce soit un ministère d'évangéliste ou un ministère d'un docteur, nous conduit à nous qui savons cela, alors que bien des évangélistes et même bénis sur la terre n'en savent pas grand-chose, nous conduit à travailler dans ce courant de pensée. Toutes les épîtres sont en rapport, enfin, beaucoup d'épîtres, pas tout à fait toutes, sont en rapport justement avec l'Église sur la terre, avec les besoins de l'Église sur la terre. La naissance de cette Église, la naissance historique de cette Église, a été un fait très brillant, remarquablement brillant, trop éphémère, bien entendu, mais dont la qualité, n'est-ce pas, ne s'est jamais retrouvée. Il y avait là, dans ce groupe de croyants, à la Pentecôte, il y avait là des traits distinctifs, parfaits, dont la perfection ne s'est pas retrouvée de la même manière dans des corps chrétiens, même faisant partie de l'Église. Et la beauté de cette Église à sa naissance, c'était que Dieu était tout, Christ était tout. Le trait le plus fort, c'est que l'égoïsme était entièrement éliminé. Quand nous savons quelle place il tient dans nos pensées secrètes et de quelle manière il gouverne nos voies, nous pouvons comprendre que c'est une merveille extraordinaire que de voir, sans le moindre commandement, mais par une unité non concertée et spontanée, les saints étaient là, étant un cœur et une âme, et que toutes les distinctions de quelque ordre que ce fût étaient alors effacées. Il n'est pas mauvais pour nous de nos jours, n'est-ce pas, qui facilement nous attribuerions des qualités de fidélité, étant donné que le Seigneur peut nous garder des écarts et des désordres et des infidélités qui se multiplient autour de nous, nous nous attribuerions facilement des brevets de fidélité. Il n'est pas mauvais que pour nous remettre à notre place dans le fond de nos cœurs, nous nous arrêtions souvent devant le pur éclat de l'Église au jour où le Saint-Esprit a commencé à la former. Nous prenons là une leçon de modestie et d'humilité. Les leçons d'humilité sont les plus salubres parmi celles dont sont les plus salubres dont nous puissions avoir besoin. Nous avons toujours une tendance à être satisfaits de nous-mêmes, satisfaits de ceux au milieu desquels nous vivons, du rassemblement auquel nous nous rattachons, et il faut que le Seigneur permette des manifestations de toutes sortes pour nous rappeler à la réalité et nous faire rechercher sa présence et sa force dans l'humiliation et sur nos fronts dans la poussière. Nous ne ferons jamais notre chemin d'une façon heureuse autrement. Le Seigneur donc s'emploie à la formation de son Église, il l'a bâti, mot employé pour la formation d'Ève. Elle est unie à lui. Un autre trait, c'est que les distinctions établies par Dieu antérieurement, la distinction entre juifs et nations est effacée, et qu'il y a là, la porte est ouverte à la fois pour tous les peuples de la terre, pour la formation de l'Église, et nous trouverons, quand le Seigneur viendra nous prendre, qu'il veuille, nous souhaitons que ce soit ce soir, si nous ne pensons qu'à nous croyants, n'est-ce pas, et nous découvrirons dans quel terrain divers auront été moissonnés tant d'épîtres pour la formation de ce peuple qui est distinct pour l'éternité de ceux qui seront des élus dans les lieux célestes. Cette Église est donc là. Elle a au cours des siècles eu une histoire plutôt singulièrement défaillante, probablement très difficile à écrire, et ce n'est pas nécessaire. Il se trouve que vers la fin, ce que nous pensons fortement être la fin de sa carrière, de sa formation, donc le Seigneur a produit a produit dans, parmi quelques-uns des siens, a produit la manifestation des traits, de plusieurs traits, de la beauté de l'Église dans ses commencements. Nous n'en doutons, pour mon compte, je n'en doute pas un instant, de moins en moins. Et plus d'un des traits d'humilité, de dévouement, d'attachement au Seigneur et au Seigneur seul, du souci exclusif de la gloire et de l'honneur du Seigneur, de toujours la disposition à s'effacer derrière le Seigneur et toujours s'effacer derrière le Seigneur, toujours rejeter ce qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait mettre en avant l'honneur même du serviteur ayant très bien servi. Cela a été le caractère des Philadelphiens. Qu'il nous a donné de d'imiter leur foi. Et en passant, qu'il nous soit donné, chers frères et sœurs, d'être toujours prompts à revendiquer la gloire et la gloire seule de notre Seigneur et Maître, à qui nous devons tout. Sinon, nous ne sommes plus des témoins si nous laissons supposer que dans la famille chrétienne, donc dans ce qui représente l'Église du Seigneur, il peut y avoir place à un honneur et à un encens pour quelque croyant que ce soit. Nous sommes les témoins, n'est-ce pas, de l'infidélité vis-à-vis des droits de Christ qui seul est digne d'être honoré, comme nous l'avons chanté dans notre cantique. Et commençons, qu'il nous soit donné de commencer par réaliser cela chacun dans son cœur avec une vigilance quotidienne, n'est-ce pas? On est d'abord heureux qu'en cela, que de cette manière. Et on peut être parfaitement heureux. Le bonheur est dans la petitesse. Le bonheur est dans le service. Le bonheur dans le service obéissant. Le bonheur est dans la dépendance du Seigneur et l'oubli de soi. Toujours. Nous voyons que cette Église que le Seigneur aime, qui ne cesse pas d'aimer, de chérir, même dans ses jours. Et au milieu de laquelle il continue à produire des actes qui sont un ornement de son épouse quand, aux noces, au jour des noces, l'épouse sera parée de ses vêtements, les vêtements qui sont les justices des saints. Apocalypse 19, tout le monde sait fort bien cela. Les justices, ce n'est pas la justice conférée par grâce à quiconque croit, mais pas du tout. Les justices des saints, ce sont les actes de la fidélité et de la foi tout au cours de l'histoire de l'Église depuis bientôt 20 siècles, autant des actes, autant des terres, autant du Moyen-Âge, où il n'y avait que l'Église, là, il n'y avait extérieurement que l'Église hiérarchisée. Et au sein de cette église, il y avait des fidèles, et plus d'un était un martyr, ou bien plus d'un a passé sa vie peut-être à genoux, en demandant au Seigneur d'intervenir au milieu de la corruption générale et ses gardes purs. Voilà les justices que le Seigneur mettra en évidence, et qui seront pour l'éternité à la gloire du Seigneur et une joie pour son cœur. Les justices des saints. Notre temps est arrivé, n'est-ce pas? Pour nous aussi. Nous ne craignons pas que des bûchers s'allument à la sortie de nos réunions, de nos jours, mais notre temps est venu de manifester que nous avons à cœur de suivre le Seigneur, de l'honorer, et de produire ce qui sera manifesté, ce qui sera montré comme de justes actes des saints, manifestation de l'amour du fidèle pour le Seigneur, l'amour vrai, le Seigneur ayant la première place. Dans l'Épître aux Éphésiens, Nous avons vu que l'Assemblée, elle est donnée comme un témoignage devant les autorités qui sont dans les lieux célestes, un témoignage de la sagesse diverse de Dieu. Israël aurait dû montrer être un témoignage de la sagesse de Dieu en gouvernement sur la terre. Il a montré le contraire, comme nous le savons bien, et comme les châtiments qui l'ont atteint le prouvent. L'Église n'a pas été non plus à la hauteur de sa mission. Les anges devraient voir dans la vie de l'Église le déploiement de la sagesse diverse de Dieu. L'Église, qui en est l'expression, une assemblée locale étant l'expression de l'assemblée générale, l'Église générale, a pour mission de représenter les caractères de l'Église, eh bien, disons-le, comme au commencement. Voilà le point, et voilà la mesure. Nous n'en pouvons pas prendre d'autres. Chaque assemblée locale a donc une très haute et très précieuse mission. Si nous nous contentons d'être des frères réunis entre nous, qui nous accordons à peu près bien, au moins par moment, eh bien, nous n'avons rien compris au principe du rassemblement. Nous sommes réunis autour du Seigneur, qui est le seul chef, le seul Seigneur, le seul maître, la seule tête, et donc celui d'où découle, et celui du seul, d'où peuvent découler la vie et les commandements à tous les membres, à chaque membre. Ce n'est pas un frère, fut-il le plus ancien, mais fût-ce l'apôtre Paul qui a servi cela. Non, c'est le Seigneur. Et il sait ce qu'il a à faire. Lui seul peut produire et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et un membre qui agit indépendamment de la tête pêche. C'est bien important, cela. Il pêche. Et le Seigneur le désapprouve. Et il subit immédiatement une perte, en communion et en joie et en force. Cela explique beaucoup de choses dans la vie de chacun. Je ne parle pas pour le moment des dangers qui nous font courir le monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Je parle pour le moment de l'activité. L'activité que nous mettons souvent en première ligne alors qu'elle ne vient qu'en seconde. Pas plus, peut-être moins. L'activité d'un membre du corps de Christ dépend de la volonté de la tête du corps. Dans les moindres détails. C'est ce que nous ont enseigné, d'une part l'Écriture, n'est-ce pas, ce que nous voyons dans les actes, et nous voyons que très vite, la chair a montré le bout de l'oreille, et que des troubles en sont résultés, et puis aussi ce que nous ont rappelé, avec une intelligence remarquable, nos frères conducteurs du siècle dernier. C'est pourquoi, d'ailleurs, n'est-ce pas, je prends un exemple de la manière dont les anges sont témoins de cela et dont nous avons à représenter la sagesse de Dieu à l'égard de cela. C'est pourquoi il est parlé des anges dans l'Épître aux Corinthiens, et que si l'on veut plus ou moins chicaner sur des questions de détail comme sur celle des cheveux, comme on prétend qu'elle l'est, eh bien, nous disons, nous trouvons que, justement, les anges sont, pour ce point-là, n'est-ce pas, les anges sont évoqués, et le fait qu'ils sont les témoins de cela, cela est évoqué par le Saint-Esprit, et tout de même, personne qui est dans aucun frère ni aucune sœur que nous connaissions n'oserait mettre en doute que le passage relatif à ce détail que des cheveux de la femme et de l'homme, il en est parlé, n'a pas été placé dans l'Écriture par le Saint-Esprit. C'est aussi un passage inspiré. Et quelqu'un qui présenterait une opposition à cela, eh bien, il prendrait sur lui la responsabilité difficile à qualifier de braver l'Écriture. Chers amis, frères et sœurs et amis chrétiens, au contraire, que Dieu nous fasse la grâce d'ouvrir nos cœurs tout grands ouverts, tout grands, pour recevoir ce qu'il dit et ne pas le contester. Et même si nous l'interprétions au-delà de ce qu'il faut à notre désavantage, n'en ayons pas de regret. On gagne toujours à craindre Dieu. On perd toujours à ne pas le craindre. Toujours. On ne se moque pas de Dieu. Et on s'en moque d'autant moins que l'on est des témoins plus privilégiés de tout ce que sa grâce a fait. Car comme quelqu'un le disait, la grâce sait aussi parler d'une façon terrible. Et le bonheur est lâche, frère. Le bonheur est dans la revendication des droits et de la gloire de Dieu, connu en Christ. Le bonheur est dans notre abaissement, volontairement et intelligemment accepté. Il faut demander. Nous pouvons bien dire il faut. Et nous n'avons pas a priori à rejeter de notre vocabulaire le terme devoir. À force de redouter un légalisme qui n'est pas toujours aussi dangereux ni réel qu'on veut le dire ou le laisser croire, on finirait par effacer toute obligation dans le régime de la grâce, donc de la bénédiction suprême. Il y a aussi des obligations, seulement ces obligations diffèrent de celles sous lesquelles le peuple d'Israël était placé. C'est qu'en Israël, et ce qui est le cas chez tous ceux qui font du légalisme de mauvaise qualité, que Dieu réprouve, les obligations étaient imposées extérieurement aux Israélites, n'est-ce pas? C'était des ordres extérieurs. Tandis que les obligations chrétiennes, et qui ont le caractère le plus pressant et le plus élevé, n'est-ce pas, les obligations chrétiennes, elles s'adressent à l'intérieur du chrétien, à sa conscience et à son cœur renouvelé, et la plus haute, toutes les obligations se résument à celle-ci, n'est-ce pas, que nous avons à marcher comme Christ a marché. Cela contient tout. Et jamais la loi n'aurait pu demander cela, encore moins le produire. Or, dans le christianisme, vous avez la vie de Jésus. Et parmi vous avez le Saint-Esprit. Et nous avons à marcher comme Christ a marché. Jamais il n'est dit à être ce qu'il était, parce que nous avons une mauvaise nature, ce qui n'était pas son cas. Voilà le modèle. Et alors, si nous réalisions cela, n'est-ce pas, on n'aurait pas besoin de nous rabattre les oreilles tous les jours pour nous dire « Tu ne vas pas, attention au monde, attention à ceci, ne fais pas cela. » Si nous étions dans cette communion avec le Seigneur, cet instinct spirituel dont je crois je parlais hier, nous conduirait sans autre dans les voies sûres et sages où l'on qui nous font éviter le mal. La sainteté active en nous, ce sentiment de sainteté, eh bien, nous ferait discerner le mal et nous conduirait sans qu'il y ait de grands conflits intérieurs à nous en éloigner. Comme la vie chrétienne est admirable, elle n'est pas faite de préceptes, c'est une vie, mais elle réalise les préceptes, elle les réalise. La vie chrétienne peut réaliser la loi, ne mettez pas la loi de côté, Dieu ne l'a pas, elle est là. Elle n'est pas le régime chrétien, bien sûr. Les chrétiens gardent la loi non de juré, mais de facto. C'est-à-dire qu'elle n'est pas le principe qui les régit, mais ils ont une vie et une puissance qui peut accomplir la loi et même plus que la loi. Ne laissons pas abaisser le niveau du christianisme à un état de choses qui se réduit à des préceptes. Ah non, pas du tout. Vous êtes bien obligés à vos enfants, tant qu'ils ne sont pas convertis, même s'ils sont plus âgés et des adultes, vous êtes bien obligés de leur donner des conseils qui reviennent au fond à de petites leçons de morale. Mais tout cela n'est pas inutile, c'est bien sûr, n'est pas inutile pour le moment. Au contraire, il n'y a pas de meilleure morale que celle qui est inspirée de l'Écriture. Mais cela ne change pas l'enfant ou le jeune homme, il reste tout ce qu'il est et aussi loin de Dieu après qu'avant. Comme nous l'avons souvent répété, après d'autres, vous pouvez lui donner un bagage, comme on allume un feu, mais tant qu'il n'y a pas, l'étincelle n'est pas mise à tout ce qui doit brûler, aux matériaux, il n'y a rien. Et l'étincelle, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Distinguons nettement l'influence moralisatrice extérieure du christianisme de sa puissance vivante. Le christianisme professant, décadent, à la ruine, ne retient plus que la première forme, il n'y a plus que les formes. Et nous arrivons, en passant, je le dis, c'est le passage de Timothée, la forme de la piété en ayant renié la puissance. On a un manteau chrétien, et sous le manteau chrétien, c'est le moi sous toutes ses formes. Et le moi christianisé, en surface, ne vaut pas mieux que le moi d'un rebelle, d'un ennemi déclaré de Dieu. Au contraire. Ce passage de Timothée nous donne l'apostasie morale, de même que le passage d'1 Thessaloniciens 2 nous donne l'apostasie religieuse des derniers. Nous pouvons demander que le Seigneur donne des dons, c'est de toute importance. Et il est bon qu'une assemblée soit exercée pour, dans une mesure en tout cas, se suffire à elle-même. Il est dit désirer avec ardeur des dons spirituels, ce désir peut être dans des individus, mais aussi dans l'assemblée même. Il n'y a pas de docteur, demandez-en. Demandons-en à celui qui est l'égal. De pasteur, demandons-en. De prophète, demandons-en. Évangéliste, demandons-en. Et ce que nous pourrions peut-être demander, qui est à l'origine peut-être de cette faiblesse, qui est plutôt à l'origine de cette faiblesse dont nous nous plaignons volontiers, demandons davantage de dévouement. C'est-à-dire le dévouement fruit de l'attachement pour le Seigneur. Ces commandements, alors, ne sont pas pénibles. Un frère disait, le dévouement aussi fait partie de la compétence. Ouais. Mais je ne peux pas m'arrêter davantage sur ces passages. Mais que le Seigneur nous donne de ne pas perdre de vue que l'Église continue tant que le Seigneur n'est pas venu la prendre, et que partout où la vérité de l'Église est connue et enseignée, partout les croyants qui bénéficient de cette connaissance sont responsables de manifester quelque chose de ce que l'Église aurait dû être depuis le commencement de sa formation. Nous n'avons pas d'autre niveau que celui-là. Il ne s'agit pas de nous faire un niveau entre nous, n'est-ce pas, les frères de Lausanne, l'Assemblée de Lausanne ou d'une autre. Non, non. Notre mesure, c'est la pensée de Christ. La pensée du Christ. Et notre sécurité, c'est la présence du Seigneur au milieu de toi, assemblée. Son nom. J'en dirai un mot tout à l'heure sur les principes du rassemblement. Nous passons à l'épître à Timothée, Christ, qui a mis en évidence quelle était la grandeur du péché, n'est-ce pas ? Il l'a mis en évidence par la perfection et la grandeur morale de celui qui a annulé, n'est-ce pas, qui est mort pour que la grandeur de ce péché soit effacée devant les yeux de Dieu. Nous avons à revenir souvent à la croix. Nous avons vu ensuite dire un mot sur les assemblées. Les chrétiens qui ne suivent pas les Écritures sont fort embarrassés pour établir des règlements régissant la vie d'un groupe chrétien. Il y a toutes sortes de groupes chrétiens. Ils ont leur credo, ils ont leurs règles, n'est-ce pas ? Et lesquelles règles varient suivant les circonstances, ils sont obligés de s'adapter, tandis que le croyant en revient toujours à ce que l'Écriture a dit et qui ne peut changer et qui est valable pour tous les temps et pour tout groupe de croyants qui veut se réaliser dans ses réunions sur le principe des Écritures. C'est bien important. Et il y a donc deux sortes d'instruction à cet égard, d'une part ce qui concerne les dons, d'autre part ce qui concerne les charges et l'administration, n'est-ce pas ? Le pouvoir administratif. Tout cela nous le trouvons dans l'Écriture. Une assemblée n'enseigne pas. C'est une erreur qui a été faite souvent. L'assemblée n'enseigne pas, n'évangélise pas du tout. Ce sont les dons qui enseigne, qui prêche, qui exhorte, ce sont les dons. Les dons, un don est lié à un individu. Il est évident que l'exercice d'un don est d'autant plus profitable qu'il est soutenu par la communion des éléments pieux, des éléments pieux d'un rassemblement local ou d'autres, c'est clair. Mais un don est responsable avant tout et en même temps à l'égard vis-à-vis de celui qui a donné le don, et il est responsable. Voilà pourquoi nous ne pouvons pousser personne, encourager quelqu'un dont nous savons que le Seigneur l'a appelé à cela, l'encourager ou prier pour lui, mais chacun doit avoir affaire au Seigneur. Et sûrement là, nous pouvons nous aider les uns les autres de bien des manières. Quant aux charges, elles sont relatives à l'ordre extérieur. Nous avons les anciens ou surveillants, dont on appelle les évêques, et les serviteurs. Les anciens sont là, sont des charges locales. L'ancien à Lausanne ne l'est pas à Neuchâtel. Mais les anciens à charge locale, ils ont à veiller sur l'ordre extérieur. Les serviteurs, pour les diverses charges, diverses activités matérielles relatives à la réunion des saints. Nous voyons donc, nous avons il est sous-entendu qu'il est hautement désirable que les anciens soient des frères graves. D'ailleurs, leurs qualités sont données, n'est-ce pas? Dieu a pris soin de nous donner les qualités requises par un ancien, soit des frères qui craignent Dieu, hautement pieux, n'est-ce pas, pieux et spirituel, et qui par conséquent accomplissent leurs tâches dans la crainte du Seigneur pour l'amour des âmes, tâches qui ne sont pas toujours faciles, surtout lorsqu'il peut y avoir quelquefois une forme de réprimande à faire. Mais en y mettant, en demandant au Seigneur de l'accomplir, on peut faire beaucoup de bien à une assemblée locale par l'exercice de cette activité-là, et les serviteurs aussi. J'arrive ensuite à une autre partie, et qui est la dernière, celle relative à les rapports avec d'autres chrétiens. Une question qui est évidemment, qui prend une importance dans un sens croissant, à mesure que le désarroi s'étend dans pas mal de régions dites christianisées, et que nous pouvons avoir davantage d'occasions de rencontres avec des chrétiens désemparés. Ce passage de 2 Timothée 2 est un passage de base. Aussi important qu'il est simple et qu'il est clair. Un passage fondamental. Je sais très bien, et par expérience, que de tels passages, celui-là ou d'autres, ne revêtent pas tout de suite aux yeux du croyant, c'est-à-dire pour son cœur et sa conscience, ne revêtent pas l'importance que plus tard on leur découvre si on a été amené à faire un peu de chemin ou à avoir eu l'occasion d'être placé devant des situations posant des questions parfois délicates et très éprouvantes. Et ce passage est vraiment merveilleux. Merveilleux. Le principe du rassemblement selon l'Écriture est celui-ci. Une assemblée locale n'est l'expression de l'assemblée en général que si elle est réunie sur le terrain suivant. Le terrain de l'Église unie à Christ, le terrain de la résurrection en dehors de la résurrection, et en dehors du monde, totalement en dehors du monde, n'est-ce pas? Totalement. Et le terrain de l'unité du corps. Disons un mot de la séparation du monde. Nous avons à veiller à ce que les principes qui régissent le monde religieux ou le monde non religieux, que ces principes ne deviennent pas actifs et influents parmi nous. Ce n'est pas si facile que cela. Chacun peut s'en rendre compte pour lui-même. L'Église est céleste. Elle est tout à fait en dehors du monde. Il est dit du royaume millénaire que ce royaume c'était une pensée avant les temps des siècles. Tandis que la pensée de l'Église était avant les temps des siècles. C'est peut-être une des plus belles preuves que l'Église n'est pas du monde. Elle est avant le monde. Elle était dans la pensée du Seigneur avant la création du monde. Et sa mission est en dehors du monde. Il est bon de nous pénétrer de cela. Et l'Église n'est pas faite pour réformer le monde. Non. d'une profonde erreur. Elle est faite pour briller, être une lampe. Ah oui, briller. Elle est faite pour être un témoignage, certainement. Elle est faite pour démontrer la puissance de Dieu dans des âmes qui étaient autrefois gouvernées par les mêmes passions que les inconvertis, quels qu'ils soient, la puissance de la grâce de Dieu ayant transformé ces hommes. Seulement, nous avons à montrer d'une façon plus continue l'effet de cette transformation. Et c'est là où nous rencontrons la mondanité, la séparation du monde. Le monde, pour ne parler que de certaines choses, s'organise. Le monde religieux s'organise. Nous savons tous qu'on emploie le mot système. Après tout, on peut bien l'employer, non pas dans un sens péjoratif, ni pour condamner personne, mais c'est un mot qui est commode, et n'oublions pas que dans quelques milieux chrétiens que ce soit, il y a des chrétiens, nous le redisons, qui nous feront honte au jour de Christ. Mais, n'est-ce pas, si nous avons la pensée pour remédier à un état de faiblesse, de chercher de la force en nous unissant nous-mêmes et en nous soutenant mutuellement, c'est ça un système. En faisant appel à des valeurs que nous jugeons comme telles, n'est-ce pas? Voilà un système. Le Seigneur est jugé ainsi insuffisant, comme étant insuffisant pour diriger ses propres affaires et s'occuper de cette Église qu'il ne cesse pourtant de chérir. Il peut difficilement y avoir une faute plus grave que celle-là, bien qu'elle ne paraisse pas toujours la plus grave. Que le Seigneur nous en garde, et par conséquent, qu'il nous soit donné d'être réunis, frères et sœurs, autour du Seigneur, ayant à cœur chacun de n'être rien que d'être simplement à la place où le Seigneur nous met, et d'accomplir à cette place ce qu'il nous demande, chacun cultivant pour lui-même la communion avec le Seigneur. Comme disait un frère, si chacun ne cherche que l'honneur du Seigneur et ne pense pas à lui-même, il aura bientôt trouvé sa niche. Et dans les réunions, que nous soyons exercés pour que le Saint-Esprit soit, comme nous le chantons, notre directeur. Saint-Esprit. Nos propres esprits n'ont pas le droit de devancer le Saint-Esprit. C'est de toute importance. Nous attendre au Saint-Esprit, je rappelle que dans les personnes divines et dans le christianisme, le Père et le Fils sont objets et le Saint-Esprit est agent. C'est lui qui agit. C'est par le Saint-Esprit que nous réalisons la présence du Seigneur en esprit au milieu de nous. La présence du Seigneur en esprit et le Saint-Esprit sont deux choses distinctes. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons adorer et jamais autrement. Par le Saint-Esprit que nous pouvons indiquer vraiment un cantique et jamais autrement. C'est ainsi. Plus nous serons exercés quant à la précision des enseignements scripturaires, plus nous serons heureux, beaucoup plus nous serons heureux. La crainte dans la paix, la crainte dans la liberté de l'esprit, la crainte dans la dépendance, c'est là le secret du bonheur des saints rassemblés autour du Seigneur. Car ce serait trop facile, n'est-ce pas, de dire nous nous sommes réunis au nom du Seigneur, et en montrant que c'est bien loin d'être le cas. Des personnes chrétiennes d'ailleurs, ou même inconverties, devraient toujours, en venant dans une réunion, n'est-ce pas, sentir que Dieu est véritablement parmi vous, même un inconverti. À combien plus forte raison un chrétien? Voilà les bonnes réunions. Pour qui? Pour tout le monde. Et d'abord à la gloire du Seigneur. l'ayons à cela, et veuille le Seigneur faire qu'il n'y ait pas un frère dans les assemblées auxquelles nous nous attachons, ni pas une sœur qui ne prie tous les jours pour les réunions, toutes les réunions, tous les jours. Est-ce que nous le faisons? Les sœurs peut-être se prévalent de la volonté du Seigneur de garder le silence pour penser qu'elles n'ont rien à faire, mais c'est une très grave erreur. Et il y a sûrement des assemblées ou des situations où quelquefois une seule sœur aura été dans le secret entendue par le Seigneur et que par la suite de son activité soutenue dans l'ombre, une assemblée aura été sauvée d'un désastre. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre les heures de crise pour s'engager dans le pareil d'activité. Il vaut bien mieux les prévenir. Voilà où nous en sommes, chers frères et sœurs. Entre Satan et nous, si j'osais dire ceci, c'est une lutte à mort. Il nous faut prendre les choses de cette manière. L'amateurisme dans le christianisme conduit à tous les échecs, dans tous les domaines. Nous nous plaignons de notre faiblesse. Au lieu de nous plaindre, nous devrions notre faiblesse. Il y a une faiblesse qui est bonne et il y a une faiblesse qui est très mauvaise. La bonne faiblesse, c'est le sentiment qu'avait Paul, qu'il ne pouvait rien faire sans le Seigneur. Voilà la bonne faiblesse. On l'a dans la communion avec le Seigneur. Et la faiblesse qui n'est pas bonne et qui est même très mauvaise, c'est celle qui consiste à dire, quand on a fait plus ou moins ces quatre volontés, de sentir que l'esprit pratiquement a retiré son activité de nous, nous sentir tristes, malheureux et vulnérables, ce n'est pas de faiblesse que nous avons à parler à ce moment-là, si nous voulons être sincères, c'est de culpabilité, c'est de mauvais état. La parole est d'une exactitude vraie que nous pouvons découvrir au travers des mots si nous la lisons avec le secours du Saint-Esprit. Toujours t'es frappé de la valeur morale à l'égard de tout ce qui touche à Dieu. Or, vous pensez bien que si un frère ou une sœur est ainsi gouverné par un moi qui n'est pas contrôler plus ou moins, c'est un très grand péché. Très grand péché. Et cela conduit à un état qui rend le croyant, encore une fois, très vulnérable. Une chute d'un chrétien. Voilà un chrétien qui fait une chute, qui a une grave chute dans sa vie. Mais la cause n'est pas nécessairement du tout de la même nature que la faute. La cause peut être un état de négligence qui a duré plus ou moins longtemps. Ou bien une tendance mondaine qui n'a pas été combattue pendant longtemps. Ou bien la bonne opinion de soi dont nous parlons, des quantités de choses qui sont très courantes dans nos cœurs, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur peut arrêter ainsi une telle marche en permettant une catastrophe qui n'a en apparence pas de ressemblance morale et en fait avec ce qui en est la véritable cause. Veillons donc sur tous les points, tous les jours. Et alors, je voudrais encore quand même dire un mot sur ces passages et la question de l'administration de l'Assemblée aussi. est quelque chose de très important, les réunions d'administration. Très important. L'assemblée d'Eli et d'Edjo, ce ne sont pas des frères. Ce n'est pas un frère, ce ne sont pas des frères, c'est l'assemblée. S'il y a des hésitations, savoir attendre le temps nécessaire, que le Seigneur donne de voir clair, mais en même temps avoir l'œil ouvert sur ce qui pourrait être selon la chair dans certains comportements. Là, il n'y a pas de règle, c'est l'exercice du moment, la foi et la piété du moment chez les frères, chez les sœurs, ou chez spécialement les parties les plus pieuses. Et dans ce qui est appelé dans l'Écriture, ce n'est pas moi qui le dis, l'ange. Il y a une partie qui est appelée l'ange. C'est la partie responsable, plus responsable. Bien que toute l'assemblée le soit, mais il y a quand même une partie plus responsable. Mais je ne peux pas m'arrêter sur cela. Et j'en viens maintenant à nos rapports avec d'autres croyants. Et nous l'avons dans notre chapitre 2. Des chrétiens peuvent nous dire et nous disent, nous ont dit, mais vous vous réunissez de cette manière, oui, mais il y a tant d'autres chrétiens qui se réunissent aussi, oui, ben oui, sûrement, il y en a beaucoup. Mais vous n'avez pas de rapport avec eux, non, nous ne pouvons pas avoir de rapport avec eux. Vous êtes des orgueilleux, peut-être bien, mais nous ne pouvons pas avoir de rapport avec eux. Que faut-il que soit notre position pour que nous ayons le courage lié à un devoir de dire à de telles personnes non, nous ne pouvons pas aller avec vous. Mais il y a des bons chrétiens chez nous, très bons chrétiens, sans nous doute. Et nous en connaissons même qui sont d'excellents chrétiens. Vous ne pouvez pas venir avec nous? Non, nous ne pouvons pas. Alors, pour que devant Dieu et devant les hommes, notre conscience soit à l'aise et que nous ne risquions pas de manquer notre carrière chrétienne. Et comme j'ouvre une parenthèse pour dire ceci, qu'importe, je disais tout à l'heure à quelqu'un, qu'importe qu'un homme fasse très bien ce qu'il fait, s'il ne fait pas ce qui lui a été commandé, il a perdu son temps. C'est clair. Et des chrétiens peuvent très bien faire ce qu'ils font, et même être bénis. Mais s'ils n'ont pas la parole intelligemment lui est comprise pour justifier leur activité, la voie dans laquelle ils sont engagés, ils risquent, en bonne partie en tout cas, de recevoir cette appréciation. Ils ont bien fait quelque chose qui ne leur avait pas été demandé. Imaginez, avec vos enfants, un enfant qui ferait parfaitement tous autre chose que vous lui avez demandé. Et que cela se généralise. En tout cas, vis-à-vis du Seigneur, nous n'avons pas à hésiter. Encore une fois, comment pouvons-nous lever, avoir, je ne dis pas la tête haute, mais avoir, regarder en face des chrétiens avec auxquels nous disons, nous ne pouvons pas aller avec vous. Quelque excellent que puissent être ceux qui forment, en tout cas, un certain nombre de ceux qui forment le groupement auquel vous appartenez. Il faut que nous ayons la parole de Dieu, sinon, si nous ne l'avons pas, toutes les libertés sont permises, toutes les dispersions sont permises, et c'est un somme qui peut général. Et il est à désirer hautement que les frères qui sont encore jeunes, ou d'autres, ceux qui pourraient être sur ces questions-là, plus ou moins vacillant, qu'il soit, comme nous l'avons lu dans cette épître, divinement convaincu de la vérité de Dieu à cet égard. La deuxième épître à Timothée est l'épître relative à l'Église en ruine, c'est notre temps. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que nous avons à répondre quand on nous dit qu'il y a des chrétiens partout? Tout à fait d'accord, mon ami. Il y a des chrétiens partout, heureusement qu'il y en a partout. Jamais les frères fidèles et craignants au Seigneur n'ont dit qu'ils étaient l'Église. S'il y en avait un ici qui le dit, nous serions de grand nombre pour lui dire que ce n'est pas Dieu qui me fait parler, c'est donc qui? Arrachons de notre cœur toutes les pensées que nous pourrions nourrir à cet égard. Soyons contents de n'être rien, ou plutôt, d'être peut-être ce qui arrivera inévitablement si nous sommes fidèles, c'est-à-dire si le Seigneur permet que nous le fassions, car toujours pour le bien, remontons au Seigneur qui seul le produit, quant au mal, remontons à nous-mêmes. Donc, que nous soyons donc pénétrés de ce sentiment que nous ne sommes rien, et j'y reviens alors, une minorité de chrétiens, prenant cette position de minorité, et ayant une position insignifiante, ah mais oui, insignifiante, n'ont pas à prêcher les frères à personne. Et si nous nous connaissons individuellement et comme frères, nous n'en avons pas envie. Une minorité insignifiante. Et je peux ajouter deux qualificatifs encore. Une minorité qui peut être, si elle est fidèle, qui sera inévitablement méprisée. Nous ne sommes pas toujours bien contents de prendre cette place-là au milieu du monde chrétien ou du monde tout court. Nous aimons mieux qu'on dise du bien de nous. Et quand c'est le monde qui dit du bien de nous, attention, lisons ce que le Seigneur dit à cet égard. Je crois bien, citer Luc ou Matthieu, malheur à vous quand le monde dira du bien. Il est impossible que la vérité de Dieu soit populaire. Vous seriez plus fort que Christ si vous réalisez cela. Et vous anéantiriez le scandale de la croix, car c'est cela le scandale de la croix. Le scandale de la croix, scandale, occasion de chute, c'est cela. C'est que la croix proclame que l'homme est un être mauvais. Jamais vous ne ferez accepter cela au monde religieux. Le monde est construit sur un principe opposé à cela. Sur le principe qu'il y a des possibilités dans l'homme et que l'homme, par ses efforts dans tous les domaines, peut se refaire un paradis ou même finir par forcer Dieu à trouver qu'il ne que ce qu'il fait n'est pas si mauvais que cela. Tenons les grands traits de la vérité, chers amis. Et alors, quand on nous dit il y a des chrétiens partout, oui, mais ils sont aussi l'Église, bien, peut-être pas tout à fait ainsi, mais nous disons, ils font partie de l'Église, ces chrétiens-là, où qu'ils soient. Oui, parfaitement. D'accord. Nous répondons encore, nous ne pouvons pas connaître tous les chrétiens. Je suppose que pas un frère de Lausanne pourrait se charger de dresser la liste de tous les chrétiens de Lausanne. Je crois bien que personne n'oserait entreprendre une tâche de cette nature. Mais nous répondons. Non, Nous ne connaissons pas, tous les chrétiens, même dans quelques pays que ce soit de la commune, bien sûr, on pourrait s'y tromper fortement. Et peut-être quelquefois parmi nous, on attribuerait la qualité de chrétien à quelqu'un qui ne l'est pas. De sorte que, réponse de la parole de Dieu, le Seigneur connaît ceux qui sont saints. Ah, voilà. Voilà une réponse qui va donner de l'ouverture à notre interlocuteur qui nous dira, bien, si le Seigneur connaît ceux qui sont siens, nous ne pouvons pas tous les connaître, eh bien, nous pouvons aller tout l'ensemble de n'importe quelle manière, il n'y a pas de difficulté sur ce halte, etc. Attention. La première vérité nous garde à gauche, la deuxième vérité nous garde à droite. Qu'il sera-t-il de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. À gauche, c'est ceci, que le frère, n'importe quel frère ou sœur, doit dans son cœur, ou alors il n'est pas en bon état, ou pas éclairé, il doit dans son cœur, aimer n'importe quel chrétien du monde, je m'excuse si je répète ce que j'ai dit une fois ailleurs, et le chef de la chrétienté lui-même, le pape lui-même, soit-il un chrétien, que chacun de nous l'aimerait comme le meilleur de ses frères. S'il ne le fait pas, il est sectaire. Cet homme a été, s'il a été lavé dans le sang de Christ, il a le même droit que l'apôtre Paul à tous les privilèges chrétiens. Et il a droit à l'amour de tous les chrétiens de la terre. Voilà ce que c'est que de ne pas être sectaire. Avoir le cœur large comme Dieu, le cœur large comme Seigneur. Alors là, ceux qui diffèrent et qui critiquent et qui font des objections et qui ne veulent ou peuvent pas comprendre ont la bouche fermée. Ah oui, c'est vrai. Font-ils partie de l'Église? Parfaitement. Les aimez-vous de tout notre cœur? Pensez-vous à eux toutes les fois que le rompons d'un et même à d'autres? Ils font partie de ce corps dont le pain est le symbole, un seul pain, un seul corps. Mais pensez-vous qu'ils auront une place inférieure à vous plus tard? Pas du tout, ce n'est pas notre affaire. Celui qui a la balance, qui tient la balance, ce n'est pas les chrétiens ni les apôtres, c'est le Seigneur. Mais alors, si vous considérez comme un frère, et si vous lui reconnaissez les mêmes privilèges que vous, pourquoi vous n'allez pas avec eux? Réponse que l'Écriture me donne, et qui est pour moi, qui a la valeur d'un devoir dans le sens de Pio, qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Je ne peux pas m'associer à ce chef d'un système, parce que ce système est élaboré sur le principe des capacités humaines, est un outrage complet à Dieu lui-même, et est une négation de l'œuvre de Christ. Ses conséquences. Et voilà pourquoi nous pouvons répondre à quiconque, voilà, cher ami, les principes qui sont à la base de notre rassemblement, dans nos cœurs, pensons à tous les saints de la terre, et de la localité en particulier, et d'autre part, séparé de l'iniquité. Mal moral ou mal doctrinal, cette injonction, n'est-ce pas, entraîne pour l'Assemblée la fidélité à ôter le mal de son sein, bien sûr. Cela va de soi. Et ces principes sont fondamentaux que le Seigneur donne aux jeunes frères et sœurs, à ceux qui sont plus jeunes, de les peser. Et que le Seigneur les inscrive dans leur cœur et leur conscience. Et il s'ensuit, n'est-ce pas, que les rapports que l'on peut avoir avec des chrétiens, d'autres chrétiens, doivent être toujours contrôlés par des exercices. Exercices avec le Seigneur. Si ces rapports risquaient de devenir dangereux et d'entraîner une communion qui serait alors illicite, nous devons ne pas les avoir. Là, il n'y a pas de règle, mais ceci est une question de droiture, souvent, de part et d'autre, et du souci de la gloire du Seigneur. Mais que le peuple du Seigneur soit un peuple séparé, c'est d'abord dans toute l'Écriture. C'est une minorité, les fidèles sont une minorité méprisée. Je me rappelle avoir lu à propos du témoignage du siècle dernier ceci. Qu'à une époque, pendant longtemps, ce groupement chrétien qui ne pesait guère dans les jugements des âmes, du monde et du monde chrétien, parce que les éléments qu'il composait n'étaient pas des éléments en vue, n'est-ce pas ? Produisait une sorte de mépris condescendant, du mépris. Les frères ont eu à faire leur chemin au milieu de ce mépris, n'est-ce pas, de vrais chrétiens et d'autres qui n'étaient chrétiens que de nom. Mais quand des frères, des chrétiens ne se défendent pas, évidemment, ils sont des proies faciles, mais ils avaient affaire au Seigneur pour que le Seigneur les protège, ce qu'il a fait. Un peu plus tard, quelques années après, la piété, le travail de la piété, de la grâce de Dieu dans les saints, ayant produit des fruits remarquables, et notamment l'étude des saintes écritures, mettant fait les développements scripturaires, étant diffusé un peu partout, même pas toujours par les frères, et comme on constatait que chez les frères il y avait une connaissance des Écritures contre laquelle bien des adversaires paraissant hautement qualifiés se trouvaient, devant laquelle ils se trouvaient désarmés, peu à peu cette compagnie des témoins du Seigneur est devenue une compagnie qui avait une puissance spirituelle telle que le mépris que l'on marquait à son égard s'était changé en haine. Ah, tu as souffert des opprobres. Voilà où mène la fidélité, cher David. La fidélité ne fera pas trousse, ne fera pas cueillir des louanges. Même si les adversaires de la vérité du Seigneur, dans leur fort intérieur, sont obligés de reconnaître que Dieu est là, ne fera pas cueillir des louanges et ne les cherchons jamais. Ceux qui veulent vivre pieusement, tous, pieusement dans le Christ Jésus, seront persécutés. Que le Seigneur nous donne d'être contents avec lui. On peut être très content. Dans sa vie de tous les jours, on est content. De suivre en portant sa croix, on est content. Avec le Seigneur, on a des ressources pour toutes les situations. Nous évitons, nous aimons éviter les difficultés. Ne les recherchons pas. Quand elles sont là, cherchons le Seigneur. Et jugeons-nous. Voilà donc cet admirable passage qui nous donne une très bonne conscience pour en face d'autres chrétiens et qui nous dictent un devoir dans notre comportement à leur égard. Et encore, à ce sujet, il est bien entendu que ceux auxquels nous avons enfin affaire doivent, sans peine, découvrir, sentir que c'est avec une grande douleur que nous leur disons que nous ne pourrons pas aller avec eux. Que nous ne leur parlons pas de haut en bas, que nous leur parlons, nous leur disons ceci, au fond, dans les larmes. Cela doit être. Là, nous aurons le Seigneur. Et nous l'aurons toujours. L'assemblée colonne et soutien de la vérité que le Seigneur nous donne de cultiver des rapports avec lui plus qu'avec quiconque, et en particulier avec ceux qui pourraient nous influencer d'une autre manière que la parole de Dieu ne fait. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans l'assemblée, nous parle des choses de Dieu pour l'édification des saints, pour l'édification. Il ne parle pas des choses qui ne sont pas nécessaires. Ainsi, comme nous le disions tout à l'heure en conversation, et la parole ne nous révèle pas les secrets de la création. C'eût été bien facile à Dieu de nous le dire. Mais qu'est-ce que nous en ferons? Ce n'est pas nécessaire. Elle va être détruite. Pas tout de suite. Pas. Encore au moins 1000 ans pour cela. Elle va être détruite. Mais c'est la nouvelle création dont nous devons nous appliquer, au cours de laquelle nous devons nous appliquer, à en pénétrer les mystères. Le reste, qu'on en sache un peu plus, qu'on en sache un peu moins, ce n'est pas la grande affaire. Et ce ne peut pas être, et cela ne peut, ne doit pas être, la, ce qui donne à notre vie chrétienne une impulsion et une direction. Ce sont les choses spirituelles et morales vis-à-vis de Dieu qui doivent être ce que qui doit nous préoccuper chacun et dans nos maisons et dans les assemblées des saints. Si nos réunions étaient heureuses, que le Seigneur s'y manifestât remarquablement, il y aurait un écho dont la puissance nous surprendrait et dont les effets nous surprendraient, parce que peut-être nous verrions venir, sans avoir à les rechercher, nous verrions venir des âmes qui, trouvant la Christ d'une manière plus complète qu'ailleurs, diraient enfin, voilà ce qu'il faut à mon cœur. Que le Seigneur veuille, dans ses dernières heures, qu'il en soit ainsi, dans toutes les assemblées du monde.
Amen. Oh!